Je dirais trois privilèges ce matin. Le privilège de vous revoir après plusieurs semaines. On s'est vu en visio dimanche, mais ça fait pas pareil quand même. Hein. Et nous, on est rentrés de vacances. On a passé une semaine dans une cabane, dans une forêt. Et c'était une cabane magique parce qu'on est rentrés comme on était. On est sortis. Ma femme est devenue retraitée. Donc, vous voyez, c'est une cabane magique. Je vous dirai l'adresse si ça vous intéresse. Deuxième privilège, c'est évidemment de partager la parole avec vous, parce que la parole de Dieu, parce que effectivement ici il met la louange en lien avec la parole de Dieu, et c'est vrai que c'est vraiment un sujet de louange de d'ouvrir la parole de Dieu et de la partager. Je ne sais pas si on réalise bien notre privilège d'être héritier de ça, d'avoir reçu depuis des siècles cette parole soit toujours accessible, qu'on n'en a pas simplement quelques petits bouts de parchemin. Ça, c'est l'autre sujet de louange et le privilège que j'ai ce matin. Et il y en a un que vous n'avez pas, mais moi j'ai. C'est de ne pas avoir de masque. Et ça fait du bien de ne pas avoir de masque pendant ces petits moments de prédication. Alors, je propose que, pour commencer, nous levions un instant et que nous remettions ces moments au Seigneur, si vous voulez bien. Ô Père Céleste, quel bonheur effectivement de te connaître, quel bonheur de savoir que tu es le maître de l'histoire, quel bonheur d'entendre ta parole résonner dans notre cœur, ta parole qui est capable de toucher notre cœur, ta parole qui est efficace, qui n'est pas simplement de la théologie, mais qui est une parole créatrice, une parole consolatrice, une parole correctrice. Merci Seigneur. Merci pour ces moments. Et sois loué encore, reçois l'adoration de ton Église, reçois la louange de nos cœurs encore en cet instant, d'avoir cette Écriture, cette Sainte Écriture à notre disposition, qui a été préservée par tes bons soins depuis tant de siècles. Sois béni notre Dieu et conduis ces instants, Seigneur. Nous nous plaçons vraiment sous la justice du sang de ton Fils Jésus. Et nous nous plaçons aussi sous la conduite de ton Saint-Esprit, Seigneur. Parce que c'est lui qui a dit qu'il nous conduirait dans toute la vérité. Et nous voulons nous laisser conduire encore ce matin par ta vérité, Seigneur. Bénis ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Un artisan poseur de fenêtres me racontait un jour, je l'ai peut-être déjà raconté, parce que vous savez qu'on radote après 60 ans. il a raconté un jour sa mésaventure avec l'une de ses clientes. Elle prend un rendez-vous pour un devis et ne vient pas au rendez-vous. Il l'appelle au téléphone et elle finit par lui raccrocher au nez. Il la rappelle pour mettre un petit peu les choses au point, et elle de lui répondre que le client était roi. Alors, ni une ni deux, il lui rétorque que le client est peut-être roi, mais le client n'est pas Dieu. Et de la part de cet homme, j'ai trouvé ça absolument admirable, d'avoir cet à propos, cette réaction. J'aurais jamais été capable de réagir comme ça. On va ce matin parcourir un petit peu le psaume 10. Pourquoi le psaume 10? Tout simplement parce que c'est un psaume qui m'a interpellé. Et le Saint-Esprit fait bien les choses, puisque ce psaume 10, et vous pouvez l'ouvrir déjà, il emboîte le pas de 1 Corinthiens 4 que nous avions vu le mois dernier en ce qui concerne l'orgueil. Vous vous rappelez ce thème que nous avions développé il y a un mois à peu près. Et dans les premiers versets de ce psaume 10, on retrouve textuellement l'orgueil au verset 2, la vantardise au verset 3 et même l'arrogance au verset 4. Rien que ça. L'orgueil, la vantardise et l'arrogance. Mais ce psaume m'a interpellé parce qu'en fait, l'orgueil dont nous avons parlé l'autre fois, en fait, il est lié à l'attitude de l'homme vis-à-vis de Dieu. Il est vrai que plus je vois Dieu grand, plus je vais me voir petit. Comment est-ce que vous vous voyez ce matin? Est-ce que vous voyez Dieu grand et est-ce que vous voyez petit? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez une importance peut-être démesurée à vos yeux? Et alors cet orgueil est d'autant plus étonnant que la scène se passe dans le contexte d'Israël. Et alors, Israël est censé quand même être le peuple de Dieu, vous êtes d'accord avec moi? Et tout ce qu'on va dire là maintenant est dans le contexte du peuple de Dieu, d'Israël, dans l'Ancien Testament. Alors, la question m'est venue, qu'en est-il du peuple de Dieu aujourd'hui? L'Église. Et plus largement, notre société, tout comme l'Église, ou la famille, l'école, l'entreprise, le citoyen vis-à-vis des forces de l'ordre, a de plus en plus de mal avec l'autorité. Alors, il est vrai que l'autorité n'est pas toujours juste et bienveillante, on est bien d'accord. Mais alors, ce qu'il y a de paradoxal, c'est qu'on regimbe contre toute autorité, mais en même temps, on veut être une autorité. On veut commander, on veut diriger, on veut imposer notre avis, notre vision. C'est assez paradoxal, ces deux choses. Du petit caïd de quartier s'autoproclamant chef de bande au quasi-dictateur politique, en passant par le bon citoyen qui écrit sa propre loi. Vous avez remarqué les gens pendant le Covid. « Oh, mais moi je pense que, donc je fais comme ça. Et puis moi je pense que, donc je fais comme ça. » Oui, sauf qu'il y a quand même une autorité qui a dit qu'il faut faire comme ça. Donc... même le citoyen, il regimbe contre une certaine autorité. Alors, chacun devrait se poser pourtant la question, et c'est la question que je vous laisse ce matin, et qui est importante pour nous tous, elle est très courte. C'est qui le patron? Alors, je mets le mot patron entre guillemets, parce que je pourrais dire c'est qui le maître, c'est qui le seigneur. C'est qui le patron? C'est une expression qu'on trouve couramment dans notre vie, n'est-ce pas? C'est qui le véritable patron? C'est qui mon patron? C'est qui mon maître? C'est qui mon Seigneur? On dit Seigneur, Seigneur. Vous savez, Jésus, il a dit à ses disciples, « Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous dis. » Donc, il ne suffit pas de dire Seigneur pour que le Seigneur soit notre Seigneur. Il faut qu'il soit le patron, et Joël l'a dit à plusieurs reprises dans son partage ce matin. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on va un peu plus loin que le psaume 10, on va au psaume 12 et au verset 5, il pose une question intéressante que je vais vous traduire ici d'une manière peut-être un petit peu plus détaillée, mais qui revient à ceci. Qui pourrait prétendre être notre maître? Qui pourrait prétendre être notre patron? Qui oserait dominer sur nous, nous les êtres humains, si sûrs de nous, si enclins à nous enorgueillir pour si peu de choses? Alors, le méchant, comme l'appelle le psaume 10 ici, il emploie le terme de méchant. Derrière, on pourrait mettre l'incroyant, ou le faux croyant, ou le croyant égaré, on va dire. On va aller jusque-là, parce qu'on peut considérer que des fois, nous sommes des croyants égarés. Que nous ne voyons plus Dieu comme il est réellement. Parce que nous avons tissé une espèce de fresque dans notre esprit, nous avons donné de l'importance à certaines choses et nous avons enlevé l'importance d'autres choses. Et nous avons toujours besoin de revenir à la parole de Dieu pour se dire, ah, mais attends, le Seigneur, il n'est pas que ça, il est aussi ça. Il n'est pas que ça, il est aussi ça. Et alors, ce fameux méchant ici, dans ce psaume 10, en fait, il a des arguments, beaucoup d'arguments, pour dire lui qui est son patron, en fait. Et voilà son attitude et ses pensées par rapport à Dieu. C'est ça qui m'a interpellé dans ce psaume, c'est que, en détail, le Saint-Esprit a soufflé à l'auteur du psaume 10, l'attitude du cœur du méchant, de l'incroyant, du faux croyant ou du croyant égaré. On pourrait le résumer dans une expression que j'ai dû employer la fois dernière, ni Dieu ni maître. Vous entendez cette expression souvent. Les gens assument d'avoir ni Dieu ni maître. Aucun patron, aucune autorité au-dessus d'eux. Et c'est ce qui explique ce rejetement contre l'autorité. Alors, la première chose qu'il dit au verset 3, il maudit et méprise l'Éternel. Alors ça, c'est le summum. Il méprise et maudit l'Éternel. Et ça m'a rappelé l'attitude d'Hérode vis-à-vis de Jésus en Luc 23. Vous vous rappelez quand Jésus va rencontrer Hérode, le roi d'Israël, qui avait quand même tout l'arrière-plan juif et la Torah, hein, derrière lui, dans sa mémoire quelque part, eh bien, vous rappelez son attitude. D'abord, il était très content de voir Jésus, il espérait voir des miracles, et on avait beaucoup parlé de lui, donc il se disait « chic, 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 je vais passer un bon moment ». Et voilà que Jésus ne lui répond rien à toutes ces questions en tant que roi, tout roi qu'il était. Et vous savez, l'attitude qu'il a prise à ce moment-là, ce fut le mépris. L'Écriture nous dit que Hérode le méprisa et se moqua de lui, au point de lui mettre un manteau écarlate sur ses épaules, puisqu'on disait de lui qu'il était le roi des Juifs, et qu'on va même l'inscrire au-dessus de la croix. Ça me fait penser à Pilate. Pilate qui ose dire à Jésus, « Mais ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te faire mourir ou de te laisser vivre ?» Et vous vous rappelez ce que Jésus répond ? Tu n'aurais... Ah, c'est pas que tu n'as aucun pouvoir. Tu n'aurais aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Ah, ça nous donne déjà une direction. Mépris et moquerie. Le méchant, l'incroyant, le faux croyant, le croyant égaré, parfois il déteste, il rejette, il injurie Dieu, il outrage Dieu. Il n'a aucun respect ni aucune crainte de Dieu, et même en Israël. Et c'est ça qui est encore plus difficile à admettre. En dépit de tout ce que Dieu a fait pour le peuple, on pourrait rappeler tous les événements de l'Ancien Testament. La mer Rouge, les murailles de Jéricho, enfin, on pourrait faire toute une liste. La manne dans le désert, l'eau à la source dans le désert, etc., etc. Et même sa présence, la colonne de nuée et tout ça. Eh ben, malgré ça, il y avait encore des gens en Israël qui méprisaient Dieu et même qui le maudissaient. En fait, Dieu n'était bon qu'à être le papa gâteau qui doit exaucer tous les caprices de ses enfants. Sinon, à quoi sert-il si la prière ne marche pas? Et vous savez, dans l'Église, parfois, on peut tomber dans cet extrême de dire « Dieu ne répond pas à mes prières, à quoi bon continuer avec lui ?» Alors c'est dire la vision étriquée du méchant dans ce psaume 10 vis-à-vis de Dieu. La deuxième chose qu'il dit au verset 4, Dieu ne punit pas. Ça explique qu'il n'est pas la crainte. Parce qu'en fait, on ne risque rien, il n'y a pas de correction imaginable. On peut continuer à vivre dans le péché si Dieu ne punit pas. Dieu est amour, diront certains, même des gens qui se disent chrétiens. Il sauve tous les hommes. L'heure n'est plus au jugement. Le péché, ça n'existe plus. Vous entendez parfois ça même parmi certains chrétiens. Vraiment ? En êtes-vous vraiment sûr ? Au verset 4, il dit aussi carrément, alors ça c'est le plus simple, il dit « il n'y a pas de Dieu ». Alors vous avez remarqué, c'est un peu le paradoxe dans ce monde, c'est que les gens maudissent Dieu quand ils sont dans une catastrophe, parfois, et en dehors du temps, non, Dieu n'existe pas. Donc si Dieu n'existe pas, pourquoi le maudire, n'est-ce pas ? C'est pas cohérent, tout ça, d'accord ? Il n'y a pas de Dieu, verset 4. Alors pourquoi s'en faire ? Je vis, je meurs, et c'est fini. S'il n'y a pas de Dieu, je peux vivre ma vie comme bon me semble. N'est-ce pas ? Il dit aussi au verset 5, « Les jugements de Dieu lui passent par-dessus la tête. » Ça arrive pas sur son écran radar, vous voyez ? Ça lui passe là, le jugement de Dieu. Bon, vous savez, c'est pas très important. Vous avez dit jugement ? Jugement ? Mais ce n'est pas à la mode le jugement aujourd'hui, même dans les milieux chrétiens. Dieu est amour, il ne juge personne. C'était pour faire peur et dominer les foules, l'idée du jugement. Et puis, certains diront, Jésus a été jugé, n'est-ce pas ? À notre place. Alors, on ne risque rien. En êtes-vous sûr que vous risquez rien ? Le chrétien sauvé par grâce ne comparaîtra-t-il pas au tribunal de Christ pour rendre compte ? Et chacun croyant ne comparaîtra-t-il pas devant le grand trône blanc ? Et si nous ne croyons pas à ces événements-là à venir, alors il faut déchirer au moins le livre de l'Apocalypse. Jésus peut-il être le Sauveur sans être le Seigneur ? Non. Jésus est le patron. Le Père est le patron. Peut-on être chrétien sans être disciple obéissant ? Et puis, au verset 11, notre incrédule dit « Dieu oublie, il se cache, il ne regarde jamais ». Alors, pas besoin de confesser ses péchés dans ces conditions, puisque Dieu a la mémoire courte. Sauf que l'Écriture nous dit tout le contraire, c'est que tout est écrit dans des livres. Et il n'y a que le sang de Jésus qui puisse effacer ce qui est écrit, n'est-ce pas ? De tout ce qu'on a fait de mal dans nos vies, en actes, en paroles, en pensées, c'est le seul correcteur qui est capable de laver, n'est-ce pas ? De nettoyer. Et certains diront, Dieu est trop grand s'il existe pour s'abaisser à comptabiliser nos fautes, vous imaginez ? Il passerait son temps à ça. Parce que malheureusement, vous êtes comme moi, on trébuche combien de fois dans une journée ? Et si Christ n'était pas à notre droit, à droite du Père pour nous, pour intercéder pour nous, que deviendrons-nous, n'est-ce pas ? Et puis il est saint, il se cache pour ne pas se souiller, diraient d'autres. Il est occupé à autre chose. À quoi bon s'en faire ? Il a le dos tourné. Profitons-en. Il ne regarde pas. Vous voyez la pensée de beaucoup de gens, en fait. Il ne regarde pas. Il oublie. Il n'existe pas. Il ne punit pas. Et en fait, ces pensées entretiennent cette idée, effectivement, que Dieu, c'est pas important. Voilà les arguments du méchant. Mais alors ce psaume révèle aussi une chose intéressante, c'est les illusions de l'incrédule, de l'incroyant, du méchant. Au verset 5, au début du verset 5, le méchant dit que ses entreprises réussissent en tout temps. Waouh ! Pourvu que ça dure, hein ? Pourvu que ça dure ! Tant mieux, tout va bien, c'est bon signe. On pourrait même dire, oh, il est béni. Vous savez, quand les choses vont bien, oh, il est béni. Quand les choses vont mal, ah non, il n'est pas béni. On raisonne comme ça, n'est-ce pas ? Souvent. Il a une bonne étoile, on entend souvent dire dans le monde. La chance lui sourit. Il a gagné au millionnaire. Il est béni, n'est-ce pas ? quelle illusion de bénédiction à travers tout ce qui va bien, n'est-ce pas? J'aime à penser que la bénédiction de Dieu, elle est tout aussi importante dans les moments difficiles, et particulièrement dans les moments difficiles, nous avons besoin de la bénédiction de Dieu, de l'onction de Dieu, de la protection de Dieu, de la consolation de Dieu. Et puis au verset 5, à la fin du verset 5, il dit qu'il disperse tous ses adversaires. Alors là, personne ne lui résiste. C'est très agréable, n'est-ce pas, vous? Personne ne vous résiste. Personne ne vous dit non. Vous savez, l'enfant gâté, l'enfant roi, à qui le parent ne dit jamais non, ça vous fait des enfants abominables. Et on en voit. J'en vois de temps en temps des enfants comme ça, au supermarché. Je me dis, mais on leur a jamais dit non à ces gamins. Ils savent pas ce que c'est que l'autorité. Et quand ils seront grands, quand on va les arrêter dans la rue pour leur dire, non, c'est un feu rouge, hein, tu t'arrêtes. Les lois me passent au-dessus de la tête. C'est pas un problème. On m'a jamais dit qu'il fallait m'incliner et me dire non, j'accepte l'autorité, j'accepte ce qu'on me dit de faire. Alors il est vraiment le plus fort. Qui oserait lui résister ou le dominer? Plus il est méchant, plus on le respecte. C'est triste dans ce monde. C'est que si vous êtes trop gentil, parfois, on vous marche dessus, on vous méprise, on fait n'importe quoi, on vous fait passer après les autres. Et parfois, on est obligé de montrer un petit peu les dents. Ça vous est arrivé, ça? De montrer un petit peu les dents, de dire, attendez là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ah, alors les gens, ils se reprennent un petit peu. Ça vous est arrivé, ce genre de choses-là, quand vous êtes tellement gentil qu'on vous prend pour un imbécile? Et vous dites, attendez, on va s'expliquer. Alors, là, c'est pareil. Plus il est méchant, plus on les respecte. Et c'est ce qu'on voit, par exemple, mais c'est qu'un exemple, dans les milieux mafieux. Vous savez, la mafia, on n'en entend jamais parler. C'est des gens respectables. C'est des gens, ils sont au sommet de la pyramide, ils passent un coup de fil, un commanditaire, et crac, ça s'exécute dans l'heure. Personne ne les embête. Et gare à ceux qui vont les embêter. Il y a des affaires célèbres, hein, surtout en Italie, mais à Marseille aussi. Et puis l'incrédule, il dit en son cœur, au verset 6, « Je ne suis pas ébranlé, je suis pour toujours à l'abri du malheur. » Eh bien, tant mieux, mon gars. Tant mieux, pourvu que ça dure, hein. Si t'es tout le temps à l'abri du malheur, rien ne lui fait peur, même pas peur. Voit le gendarme sur la route, même pas peur. Il y a une émission à la télé, vous savez, enquête d'action, je sais pas quoi, il montre des trucs, mais alors, étonnants, des gens qui roulent plein pot, pleine vitesse, sans permis, sans assurance, avec 2 grammes d'alcool dans le sang, et ils ont le toupet encore de regimber contre l'autorité qui leur dit, attendez, vous avez tué personne jusqu'à maintenant, mais heureusement, hein, parce que vous auriez pu. Alors rien ne lui fait peur. Il semble intouchable, invulnérable. Il n'a jamais été confronté à une tornade, à un tremblement de terre, à un volcan en éruption, à une vague de 25 mètres de haut, ou à un trait de foudre, ni même un incendie de forêt, ou l'inondation de sa maison. Vous savez, même un petit incendie de forêt, l'autre jour, sur la colline de la Grisière, le feu a pris dans les arbres. Et de chez moi, je regardais, il y avait des flammes qui faisaient 5-6 mètres de haut déjà. Bon, les pompiers sont vite arrivés, il y avait quelques maisons pas loin. Eh ben, vous savez, ça fait peur. En 1976, dans le Mâconnais, près de où j'habitais, la colline du Mont Épinay était en feu, à 1 kilomètre à vol d'oiseau de notre maison. C'était l'époque où il y avait les foins avaient été rentrés dans les fenils, et il y avait la fermentation. C'était très très explosif, c'était très inflammable. Et quand on voyait la colline en feu, je vous assure qu'on se sent petit. Mais Dieu à côté, c'est... Franchement, si on a peur d'un incendie ou d'un tremblement de terre, je crois que Dieu est largement au-dessus de cette crainte-là. Alors, cet individu ne se rend même pas compte qu'il n'est qu'un moucheron au milieu d'une ruche d'abeilles, n'est-ce pas, ou un grain de sable dans le désert. Vous savez combien il y a d'abeilles dans certaines ruches? Alors, vous allez me dire, ça dépend de la taille. Oh, elles sont à peu près standards, en principe. Allez, un chiffre. Bien fort. Peut-être si elle est grande, oui, mais au moins 60 000. Vous imaginez 60 000 abeilles en train de travailler. Et elles vivent combien de temps, les abeilles? 40 jours. 40 jours. 20 jours, elles travaillent dans la ruche et 20 jours, elles pollinisent. Et après, elles meurent. Eh ben, un petit moucheron là au milieu, il est quoi? Pas grand-chose. Alors, oui, il y a un maître et un seul. Mais alors, c'est qui le patron? Le psaume 10 nous le dit, au verset 16, l'Éternel est roi pour toujours et à perpétuité. Nous, des fois, on est désarçonnés parce qu'on oublie que Dieu est roi. On oublie que Dieu règne, on oublie que Dieu domine toutes choses et qu'il peut toutes choses. Ce n'est pas un mandat électif de 5 ans, de 10 ans, mais il est le patron à perpétuité. Et à propos de Jésus, il est même dit une phrase qui est pourtant très parlante. Tout genou fléchira devant lui. Le genou de Monsieur Trump, le genou de Monsieur Poutine, le genou de Monsieur Macron, le genou de Monsieur Xi Jinping, le genou de Monsieur Kim Jong-un, j'ai du mal à le dire. Vous avez pensé à ça? Que tous ces grands, tous ceux aujourd'hui qui oppressent les autres, tous ceux qui profitent des plus petits, ils vont fléchir le genou devant le grand patron. Moi, ça me fait du bien, pas vous? Hein? Ils vont fléchir le genou. Même si Dieu semble se tenir éloigné, comme nous laisse penser le verset 1, même s'il semble se cacher au moment de la détresse, toujours au verset 1, il est dit au verset 14, l'Éternel voit. Et il voit tout. Il dit, tu vois cependant leur peine et leur souffrance. Verset 14 toujours, l'Éternel regarde. Tu regardes pour prendre en main leur cause, c'est à toi que le malheureux s'abandonne, sous-entendu par la foi, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Dieu regarde, Dieu voit. L'Éternel entend, verset 17, tu entends les désirs de ceux qui souffrent, Éternel, tu leur redonnes courage et tu prêtes l'oreille. C'est pas beau, ça? Dieu n'est pas un grand patron lointain, loin de ses employés, loin de son personnel, loin de ses enfants. Mais il voit, il regarde, il entend. Et pourquoi, nous dit le verset 8, eh bien, pour rendre justice. Qui n'a pas soif de justice? Parmi nous ou dans le monde, pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre, de la poussière, cesse d'inspirer de la crainte. Et l'orgueil de l'homme arrive à lui faire penser qu'il est tellement important, alors qu'il n'est que de la poussière, et qu'il va retourner à la poussière, et qu'il a un tout petit pèlerinage sur terre, tellement court, tellement aléatoire, tellement dépendant de sa santé, des accidents de voiture ou d'avion ou d'autres choses. Alors qu'il soit roi, dictateur, caïd, riche, haut placé, c'est un mortel. C'est toujours bon de se le rappeler, n'est-ce pas? Alors, c'est qui le patron? Alors, je vais faire un petit avertissement quand même. Demain, quand vous irez au boulot, vous n'allez pas trouver votre patron en lui disant, dis donc, il y a un prédicateur à Saint-Albin qui m'a dit que le vrai patron, c'est pas toi. J'ai pas dit ça. J'ai dit que le patron suprême, le grand patron, c'est le Seigneur. Mais ton patron fait partie de la chaîne d'autorité que Dieu a établie. Et évidemment, tu dois le respecter en tant qu'autorité et lui-même rendra compte à notre grand patron de sa gestion, de son comportement, de sa moralité. Et ça, c'est réconfortant. de se dire « Justice sera faite en toutes choses par notre Seigneur ». Alors pourquoi avons-nous autant d'assurance finalement? Pourquoi ne nous laissons-nous pas intimider par qui que ce soit? J'espère que vous n'avez aucun complexe, mes amis, devant quelque autorité que ce soit, même si vous êtes dans le respect, dans la soumission, vous n'avez aucun complexe, et on va voir pourquoi. Parce que nous connaissons le patron avec un grand P. Nous le connaissons au sens où Joël l'a dit, pas simplement intellectuellement, mais nous le connaissons là. Nous l'avons vu à l'œuvre dans notre vie. Et puis, nous sommes ses enfants. Nous le respectons et nous connaissons la fin de l'histoire. Mais pas la fin d'un roman. Ce n'est pas la fin d'une légende, c'est la fin de l'histoire de l'humanité. Vous connaissez la fin de l'histoire de l'humanité, mes amis. Vous n'aurez pas de surprise, de mauvaise surprise. Et là, on entre dans un parallèle évident avec le livre de l'Apocalypse, qui m'a fasciné encore ces derniers jours, dès le chapitre 4. Qu'est-ce qu'on voit apparaître au chapitre 4 de l'Apocalypse ? Le trône de Dieu. Le trône de Dieu. Le trône du patron, du vrai patron, du vrai Seigneur, du vrai Maître. Alors c'est le moment de reconnaître le vrai patron, le Père Tout-Puissant, ou alors d'être éternellement éloigné de lui. Chapitre 4, verset 11 du livre de l'Apocalypse. « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. » Amen. C'est le moment de reconnaître le Seigneur des Seigneurs, agneau de Dieu, pour le péché des hommes. Chapitre 5, verset 12. « L'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Amen. C'est le moment de reconnaître le Père et son Fils. Chapitre 5, verset 13. « Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. » La domination au siècle des siècles. L'Éternel est roi pour toujours et à perpétuité, nous a dit le psaume 10, verset 16. Vous voyez que je ne vous ai pas raconté de bobard. Hein, le trône, en fin des temps, apparaît. Et alors, Dieu prend ses droits. Alors, il n'est pas patron pour 5 ans, pour 10 ans, pour un siècle, mais pour l'éternité. Alors, est-ce qu'il est votre patron? Est-ce qu'il est véritablement votre patron? Je ne dis pas votre Dieu accessoirement, c'est-à-dire un Dieu où on va sonner à sa porte quand on a besoin. Ce n'est pas ça l'idée. Ce n'est pas non plus le Dieu du dimanche. Puis après la semaine, ma foi, on vit à sa façon. Non, vraiment, est-ce qu'il est votre patron, votre maître absolu? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Actuellement, nous sommes dans ce que nous appelons la parenthèse de l'Église. Ça, on l'oublie trop souvent. On imagine que le temps de la grâce est éternel. Alors, d'une certaine manière, oui, mais au regard du plan de Dieu, le temps de la grâce a une fin. Dieu use de patience pour l'instant, il veut que tout le monde se repent, se tourne vers lui, volontairement, sans contrainte, sans manipulation. Il use de patience, nous dit l'apôtre Pierre. Et quelle patience, mes amis, quand on voit l'humanité, à quoi elle ressemble aujourd'hui, mais c'est pire qu'au temps de Noé. Quand vous voyez cet homme avec une batte de baseball, c'est ces hommes qui tapent sur cet homme dans cette laverie cette semaine. Et enfin, on est où? Ces gens ont-ils la crainte de Dieu? Je crois pas, non? On voit de plus en plus de violence, d'agressivité. Alors, le Covid, il a pas aidé, hein, je suis bien d'accord. Le confinement a pas aidé, hein. Mais quand même, c'est effrayant de voir la violence. Mais ce temps va bientôt prendre fin. Et l'agneau de Dieu, j'ose dire à ma façon, va faire du poing sur la table. Ah, vous croyez que l'agneau de Dieu, c'était un petit agneau bien frisé, bien joli, bien doux, et puis on le met comme une peluche dans un petit coin de la pièce. C'est pas ça du tout. Fini le petit Jésus dans la crèche. Fini le Jésus prisonnier de ses clous sur la croix. Fini le Jésus absent. Fini le Jésus invisible. Apocalypse 6, 12 à 17 nous dit ceci. Je regardais. Quand l'agneau ouvrit le sixième sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme des figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on enroule, et toutes les montagnes et les îles furent écartées de leur place. Waouh ! Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous loin de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau. » En effet, le grand jour de sa colère est venu, et qui peut résister ? Personne ne pourra ce jour-là se débiner, éviter la colère de l'agneau, à part ceux évidemment qui ont mis leur confiance dans l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mon péché, dans l'agneau de Dieu dont le sang nous a purifiés pour l'éternité et qui est même un rempart contre le monde spirituel hostile. Ils l'ont vaincu, le diable, à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Alors c'est qui le patron ? Tu feras moins le malin ce jour-là, méchant, caïd, dictateur, oppresseur, moqueur. Aujourd'hui, tu as l'impression d'être fort, tu as l'impression que personne ne peut rien contre toi. Mais ce jour-là, tu ne pourras pas échapper. Alors l'histoire n'est pas terminée. Ce qu'il y a de beau encore dans ce livre extrêmement tragique de l'Apocalypse, c'est que Dieu offre une dernière chance au monde. C'est ce qu'il appelle l'évangile éternel. Apocalypse 14, versets 6 à 7 et versets 9 à 12. Je vis ensuite un autre ange voler haut dans le ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et rendez-lui gloire. C'est pas simplement, viens à Jésus et tu seras sauvé. Vous savez, aujourd'hui, je lisais un livre l'autre jour d'un auteur qui parle justement comment annoncer l'évangile dans notre société sécularisée. Il disait, mais on a trop fait de fausses conversions en disant aux gens, oh, tu veux te sauver pour l'éternité, viens, on va prier ensemble. Allez, assieds-toi là, on s'assied, tu fais cette prière après moi, tu répètes, tatati, tatata. Et avec les années et les décennies, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui ont abandonné le Seigneur et qui s'étaient assis comme ça pour... Alors certains se sont convertis, heureusement, heureusement, mais c'était peut-être un peu léger. Et que là, l'évangile éternel ne dit pas simplement « Viens au Seigneur Jésus, tu seras sauvé » par égoïsme, par pour sauver sa peau, n'est-ce pas ? C'est pas ça. C'est « Craignez Dieu et rendez-lui gloire ». C'est ça la conversion en Christ aussi, hein ? Car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et un autre et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, » donc ça c'est vraiment le méchant absolu hein, qui est représenté par cette bête, « et s'il reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre. » On n'aime pas ça, hein. C'est pas à la mode dans les églises, n'est-ce pas, ce message, hein. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et tous ceux qui reçoivent la marque de son nom. C'est ici qu'est nécessaire la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Alors il est encore temps de reconnaître qui est le patron. Qui est mon patron? Qui est ton patron? Ton grand patron? Roi de la terre, caïd de deux quartiers, dictateur, chef d'État corrompu ou incrédule, simple citoyen. Peut-être ce matin parmi nous, une personne n'a jamais fléchi le genou devant Dieu et reconnu Jésus comme sauveur et Seigneur de son âme. C'est le moment de le faire ou de renouveler cette démarche, de dire « Seigneur, j'ai vécu indépendamment de toi, je t'ai pas considéré comme mon patron. J'ai plus de respect même pour mon patron terrestre que pour toi. » N'est-ce pas? Des fois, le patron terrestre, hein, il vous dit ce qu'il veut, hein, et puis vous avez pas à broncher, hein, il faut obéir. Et puis Dieu, bon, ça passe un peu au-dessus de la tête, n'est-ce pas? Des fois, hein, on se laisse un petit peu aller. Ce que j'appelle un peu le croyant égaré. Et malheureusement, on s'égare tous à un moment ou à un autre. Alors c'est qui le patron dans ta vie, même si tu vas à l'église depuis longtemps? Qui règne en toi? Qui règne dans ta vie? Qui est allé plein pouvoir sur ton âme, sur ta destinée? Les clés de ta maison, entre guillemets, ta maison spirituelle, et même ta maison physique d'ailleurs. Qui est ton patron? Qui règne en toi? Qui a les pleins pouvoirs? Alors pour conclure, on va donner quelques pistes de réflexion par rapport à l'Église, parce que ce méchant dont on parle dans le psaume 10, c'est dans Israël que ça se passe. C'est horrible, mais c'est comme ça. Et depuis 20 siècles, l'Église n'a pas été forcément très crédible. Il faut le reconnaître. Nous intégrons à ça, disant, on n'a pas été, tous ceux qui se disent chrétiens depuis 2000 ans, nous n'avons pas été convaincants pour le monde, nécessairement. Nous n'avons pas toujours été crédibles. Nous n'avons pas toujours été à la hauteur de ce que Dieu attendait de nous. Alors, c'est qui le patron dans notre vie? C'est qui le patron dans l'église locale? C'est qui le patron dans l'église universelle? Avons-nous les égards, le respect pour notre patron suprême? Passons-nous autant de temps à l'adorer qu'à lui demander mille choses? Vous avez remarqué cette distorsion entre le temps d'intercession et d'adoration? Je ne sais pas dans votre vie, mais combien de fois je passe beaucoup plus de temps à dire « Seigneur, je te prie pour un tel, je te prie pour un tel, je te prie pour ça, je te demande ci, tatati, tatata. » Et puis, à la fin, je dis « Mais attends, tu oublies l'enseignement de Jésus sur la prière. » La prière de Jésus ne commence pas par « Seigneur, donne-moi mon pain quotidien ». Non, elle commence par « Notre Père, toi qui es aux cieux sur ton trône, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. » Et après, on demande. Vous voyez? Ça, c'est important de se le rappeler constamment. Quelle place occupe-t-il dans notre quotidien? Quel temps lui consacrons-nous? Sommes-nous à sa disposition? Ou profitons-nous simplement de sa grâce et de ses bienfaits? Faisons-nous le travail qu'il nous commande de faire? Ou n'en faisons-nous qu'à notre tête? Quel salaire espérons-nous donc? La parenthèse de la grâce nous fait-elle oublier le temps du jugement divin? Ce n'est pas une idée à la mode dans les églises aujourd'hui, d'annoncer le jugement divin. Et c'est précisément ceci qui explique la nécessité d'annoncer l'évangile éternel. C'est qu'il y a un danger imminent qui est peut-être beaucoup plus près de nous qu'on imagine. Quand on voit le réchauffement climatique, les dangers solaires et tout ça. Bref, ses intérêts et son plaisir passent-ils avant nos intérêts et notre plaisir? Croyons-nous que Dieu ferme les yeux sur nos péchés non confessés? Avons-nous part à sa correction comme des enfants légitimes? Vivons-nous chaque jour comme si Dieu n'existait pas? dominé par les soucis de ce monde et à la recherche de satisfaction personnelle? Agissons-nous comme si Dieu avait le dos tourné ou la mémoire courte? Et notre société dite laïque n'a-t-elle pas besoin d'entendre l'évangile éternel et prendre conscience qu'elle ne maîtrise absolument rien? Vous savez, pour être maître, pour mériter le nom de maître ou de patron, il faut être quelqu'un qui maîtrise. Dieu maîtrise. Dieu a la maîtrise. Mais alors, sur terre, on n'a pas du tout la maîtrise. On maîtrise rien, malgré les lois, malgré l'arrogance. Rien contre le réchauffement climatique, ni le Covid-19, ni les crises économiques, ni les catastrophes diverses. Même hier, je regardais sur Internet, sur Arte, il y avait une émission sur les éruptions solaires, les tempêtes solaires. C'est extrêmement dangereux pour notre planète. Et il y a des phénomènes extrêmement inquiétants actuellement. Et il ne faut pas qu'on oublie, nous chrétiens, que notre planète ne sera pas détruite par l'eau. Le Seigneur l'a promis, mais par le feu. Et quand on pense à ça, quand on voit les éruptions solaires, ça fait un petit peu trembler, n'est-ce pas? On se dit, waouh, le Seigneur est grand, hein, mais nous, on n'est pas grand-chose, hein, on est vraiment petits, hein, devant tout ça. Hein, et le monde, il imagine vouloir maîtriser, mais c'est impossible. On a envoyé des sondes vers le soleil pour essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que ça vous coupe les GPS, ça a plongé en 1989 une partie du Canada dans le noir. Tout le réseau électrique était endommagé avec ça. Il y a eu plein de problèmes avec les éruptions solaires. Alors, les autorités n'ont rien à craindre des religions qui ne servent trop souvent qu'à la satisfaction de l'orgueil humain pour mériter, toujours mériter, parce que je vais au culte, parce que je fais ci des bonnes œuvres, parce que je fais ci, parce que je fais ça. Mais c'est pas ça notre vie à nous. Notre vie est une vie de relation avec Dieu. Et des œuvres que lui a préparées d'avance et qu'il veut qu'on fasse à travers lui, avec son esprit, avec sa force. En revanche, les autorités humaines courent le risque énorme de déplaire au grand Dieu de l'univers, créateur du ciel et de la terre, créateur de l'ADN, créateur de la chaîne alimentaire, de l'équilibre écologique, des saisons, des molécules, bref, de la vie. C'est pas la religion que notre état laïque doit craindre. Religion, pensée. C'est le grand Dieu de l'univers, le patron suprême. C'est lui. D'ailleurs, Jésus l'a dit à ses disciples dans Matthieu. Vous vous rappelez ce qu'il a dit à ses disciples? Je vais vous montrer qui est-ce que vous devez craindre. C'est pas ceux qui vont tuer votre corps. C'est celui qui peut faire périr votre âme dans la géhenne. Il est pas, hein? Il n'y va pas avec une manche de cuillère, hein, là, quand il dit ça. Mais c'est vrai, c'est le grand patron qu'il faut craindre, qu'il faut respecter. Cette société sent-elle, à travers l'Église, l'existence de ce risque imminent du jugement divin? Et comment le sentirait-elle si l'Église elle-même ne le sent pas et n'agit pas en conséquence comme une sentinelle qui avertit d'un danger tout proche? Amen. On va prier, si vous voulez bien. Père Céleste, nous sommes là devant toi, et nous te confessons volontiers que nous n'avons pas toujours les égards envers toi que tu mérites. Nous n'avons pas toujours un esprit d'adoration et de louange. Nous n'avons pas toujours un esprit de considération de ta personne, de ta grandeur, de ton autorité, et même de ton amour, et même de la valeur de ta grâce. Et nous voulons t'en demander pardon, Seigneur. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Seigneur, merci de nous rappeler que tu vois tout, que tu regardes, que tu entends, que tu secours, et que tu es souverain en toutes choses, quelles que soient les apparences, même si tu sembles distant ou inactif ou silencieux. Seigneur, je te prie que ton nom soit béni, et je prie que ton Église soit remplie de son rôle de sentinelle pour ce monde qui se croit capable de tout et en fait qui ne maîtrise rien. Seigneur, donne-nous le courage, l'adresse, l'habileté, l'amour, tout ce dont nous avons besoin pour avertir notre société qu'un danger imminent menace, parce que le temps de la grâce va bientôt prendre fin. Et tous ces fléaux qui commencent à apparaître ici ou là nous font penser à ton retour prochain. Et nous voulons être prêts, Seigneur. Tu dis toi-même, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. La tentation peut-être de se décourager, la tentation de dire, bof, finalement, quoi ça sert de suivre Dieu? Oh, il fait pas grand-chose dans ma vie, il répond pas à beaucoup de mes prières. Seigneur, aide-nous, comme le dit l'Apocalypse, à rester persévérant jusqu'à la fin. Parce que nous sommes en toi entre de bonnes mains, Seigneur. Bénis ton Église, Seigneur. Encourage-la, Seigneur. Renouvelle ses forces, renouvelle sa vision, renouvelle sa plénitude dans l'Esprit Saint, Seigneur, et son amour pour ta parole, et son amour pour notre prochain qui est quelque part autour de nous, là où nous vivons, Seigneur. Donne-nous cet amour du prochain qui va jusqu'à être soucieux du destin de son âme, Seigneur. On a tant besoin de toi pour être rempli ainsi de l'Esprit qui t'anime toi-même. Glorifie ton nom, Seigneur, et garde-nous dans une perception glorieuse de ta personne, de ton œuvre et de notre destinée éternelle avec toi. Au nom de Jésus, le Christ, vivant, ressuscité, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.